n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Commençons par saluer Ahmed, notre invité habituel, qui aura par la même occasion la possibilité de vous faire son coucou.
Coucou, bonjour Augustin, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup Ahmed, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude.
Oui, la forme.
C'est ça. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de Cloche, l'émission préférée de beaucoup, ici et à travers le monde, pour toutes ses formes d'expression, anodines, remarquable ou extraordinaire, local ou global, artistique, scientifique, social ou autre, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables, ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre mission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Béchi et vous exprime, comme toujours, la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Notre thème du jour est l'avenir du père. Commençons tout de suite par suggérer quelques qualités et plus de papa. Devenir papa est une porte ouverte vers un monde de découvertes, émotions, sentiments, projets, résolutions, renouveau, se bouscule pour faire de monsieur un papa. Parce que papa fabrique bébé dans sa tête, pendant que maman le fabrique dans son corps. L'arrivée de bébé souffle dans sa vie comme un tsunami, transformant le paysage à jamais. Chacun le vit différemment, à sa manière, selon son âge, sa personnalité et son vécu, mais tous s'entendent pour dire que leur vie n'a plus jamais été la même. Pour le meilleur, bien sûr. Il en faut des qualités pour être papa. Nous vous invitons à ajouter vos idées aux nôtres. Nous compilerons vos suggestions au fur et à mesure de leur réception. Un papa, c'est 1. Un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. 2. Un pilier pour ses enfants. 3. Une présence qui rassure. 4. Grand et fort pour pouvoir porter ses enfants sur son dos. 5. Celui par qui tout devient possible. 6. Celui qui nous montre toutes les astuces de la vie. 7. Un héros sensible. 8. Le Superman de la crème glacée. 9. Celui qui me fait déjeuner tous les matins. 10. Un géant qui me fait faire des tours d'avion dans ses bras. 11. Le complément parfait de maman. 12. Une main de fer dans un gant de velours. 13. Un grand terrain de jeu avec qui on peut jouer tout le temps, même quand c'est l'heure du dodo. 14. De grands bras chaleureux où se réchauffer. 15. Une réserve infinie de grimaces rigolotes. 16. L'expert conseil en farce et attrape. 17. Un guide d'aventure en forêt. 18. Un guide dans l'aventure de la vie aussi. 19. Un rempart contre l'adversité. 20. Celui qui rend les mathématiques compréhensibles et amusantes. 21. Le champion du BBQ, du wok et des smoothies dans le blender. 22. Quelqu'un d'aimant, patient, généreux et attentif. 23. Un grand enfant qui s'amuse avec moi. 24. Un ami capable d'écouter. 25. Malgré les apparences extérieures, c'est un être très protecteur envers ses enfants. 26. Un sourire au quotidien. 27. Un terrain de jeu ambulant. 28. Un champion des bisous qui pique. 29. Celui qui dédramatise les petites crises, qui console et qui rassure. 30. Un homme qui n'a jamais oublié ce que c'est d'être un enfant. 31. Un homme inspirant qui a façonné celui que je suis devenu. Évidemment, nous allons prendre vos commentaires, votre liste, dans les émissions qui suivront, dans les années qui suivront, dans les siècles qui suivront, parce que tout le monde a sa liste très très longue. Écoutons Stromae, Papa Oté.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa! Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es?
Oui, alors on a campé un petit peu le papa avec Stromae. Je ne sais pas ce que tu penses, Ahmed. Le papa est un concept dans les conversations.
Oui, le papa, c'est un job à temps plein. C'est un job, tu dors, tu t'es papa, tu es réveillé, tu es papa. T'es à la job professionnelle, t'es papa, t'es partout, t'es papa. Lorsque t'es papa, c'est parti pour toute la vie. Et le concept de papa, bah, ça vient pas, c'est pas un concept moderne. J'ai un petit peu cherché, bah, il y a le papa conventionnel qu'on connaît.
Oui.
Bah, qu'on fait, parce qu'on a des enfants, mais on a ce qu'on appelle pater paterae, c'est les pères de la patrie aussi.
Ah oui.
Ah oui. Parce que le concept de papa, d'accord? Ok, papa qu'on voit dans les familles, tout ça. Mais le concept de pater patriae, c'est un concept très ancien. Ça remonte à l'époque romaine. C'est un titre d'empereur. Je crois chaque papa dans une famille, c'est un empereur aussi. Et ce titre-là remonte à l'époque d'Octave, le fils d'Auguste. C'est un des titres comme Imperator, Caius, Cadius et Pater Patrae, on le trouve inscrit sur tous les arcs de triomphe dans les cités romaines.
Je suis heureux que tu abordes, enfin, que tu convoques Rome dans notre conversation sur les papas. Parce que les Romains, déjà, nous ont laissé en héritage la notion de père que nous utilisons encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, sans être linguiste, je vais dire ça à la façon des juristes, de façon très, très dangereuse. Pater ises, quam nuptiae demonstrant. Pour les Romains, le père, c'était le mari de sa mère. Oui, c'est-à-dire que si je suis un enfant, c'est le mari de ma mère qui est mon père.
Oui.
Bon. Et je crois que cette extension-là s'est faite au niveau de la patrie. Et c'est ainsi que peut-être on a pu parler de Staline.
Oui, après le conseil, oui.
Comme le petit père des peuples.
Oui.
Oui. Bon. Mais maintenant, c'est une... Le concept de père ne fait pas l'unanimité.
Oui, tout à fait.
Il y a des gens qui sont contre le patriarcat, qu'ils dénoncent tous les jours. Il y en a qui sont pour le patriarcat. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ma question, c'est que... Oui, le concept de père, d'accord, mais pourquoi le... l'étiqueter toujours de concept de patriarcat. Il peut être père, mais il n'y a pas le concept de patriarcat. C'est une des décisions s'apprennent en famille. Il y a des cogito de famille. Il y a les dîners que tout le monde peut parler et voter, comme on peut dire. Et la société peut être patriarcale dans beaucoup de parties du monde.
Oui.
Mais il faut chercher les origines. Pourquoi? Comment? Et ça mène vers où?
Bon, sans prétendre à faire l'unanimité, je vais prêter ma voix à Jean-Pierre Winter dans son excellent livre « L'avenir du père » et évoquer quelques bonnes feuilles ici par rapport au mythe. Le mythe trouvé par Freud chez Darwin explique les origines de l'humanité, c'est-à-dire de la civilisation. Freud en expose sa version dans un ouvrage de 1913 intitulé « Totem et tabou ». Le mythe darwinien y est réinterprété à la lumière de ce qu'il a pu constater chez ses contemporains. Voici en substance comment il reconstitue ses débuts de l'humanité. Il faut supposer à l'origine une ou des tribus primitives toutes structurées de façon identique. C'est pourquoi le raisonnement portera sur une seule. La tribu première était dominée par un mâle, plus fort et sans doute plus rusé que les autres. Il s'attribuait la jouissance exclusive de toutes les femelles, à commencer par les mères, et éliminait ses rivaux. Il était réputé tout-puissant, à la fois craint et admiré. On aura reconnu non seulement le modèle de la harde animale, mais aussi un fantasme largement présent dans la vie actuelle, publique et privée. Freud nomme cet embryon de la société la horde primitive. Une horde n'est pas encore une tribu, car les tribus obéissent à des règles constantes et les pouvoirs de chacun y sont délimités. Un jour, les fils, jaloux et las de se faire massacrer, s'unirent pour se débarrasser du monstre. Ils conspirèrent peut-être à l'initiative du plus jeune et avec la complicité de la mère. Mais, une fois le Père Tout-Puissant transformé en cadavre, vint la surprise. Il est encore plus grand, mort que vivant, disait le roi Henri III devant le cadavre du duc de Guise assassiné. C'est ce qui arriva. Le meurtre leur resta sur la conscience et l'effroi de l'avoir commis modifia jusqu'à leur façon de vivre. Effroi et angoisse, car ils avaient aussi détruit l'ordre sous lequel ils vivaient depuis leur naissance. Alors les frères se rassemblèrent pour se partager la dépouille du père et pour décider de ce qu'il faudrait mettre en place afin d'éviter que tout cela, la toute-puissance, le meurtre, l'angoisse, ne se reproduise. De là serait né, selon Darwin et Freud, la morale, la religion, le droit, les mœurs et tout ce qui fait qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Cependant, souligne Freud, en dépit de cette révolution inaugurale, la nouvelle organisation sociale n'a pas effacé totalement la précédente. Elle l'a seulement rendue souterraine, c'est-à-dire en termes psychanalytiques refoulés. Le fantasme du père jouisseur et meurtrier reste présent dans le psychisme de chacun, aujourd'hui comme dans les temps immémoriaux. Il ressurgit à la moindre occasion, quoi qu'il en soit, des comportements du père de la réalité. C'est pour tenir compte de telles données sous-jacentes, mais sans cesse émergentes, que Freud a inventé le concept d'inconscient et la pratique psychanalytique. La référence à cet étrange mythe apporte un bon exemple de ce qui attend quiconque se dispose à entendre parler de la psychanalyse. Il ou elle se trouvera confronté à des affirmations surprenantes, invraisemblables, souvent agaçantes, parfois révoltantes. Pourtant, quelque chose y résonne comme un accent de vérité. Ces idées sont peut-être bizarres, elles ne sont pas stériles. Qu'elles suscitent sympathie ou antipathie, elles font penser. Souvent, elles s'associent à des souvenirs, évoquent des comportements que l'on redécouvre en soi-même, plus fréquemment chez des proches ou des voisins. Il n'est pas moins frappant de voir surgir des réactions violentes, déni, colère, opposition, incrédulité, ironie malveillante. Y aurait-il des vérités malvenues que nous ne supportons pas? Patience, écoutons d'abord, en étant prévenus que ce à quoi nous ouvre l'expérience et les concepts analytiques va le plus souvent à l'encontre des idées reçues et des notions qui paraissent évidentes. Il y a de quoi se sentir déconcerté. Ahmed, est-ce que le concept de papa déconcerte?
Non.
Pour toi, tout est évident, tout est en place. Est-ce que ce n'est pas un biais culturel?
Oui. Tu sais, tout à l'heure, t'as énuméré ce que fait le papa.
Oui.
En fait, je crois que c'est ça, et on peut rajouter beaucoup de choses.
Oui, et la liste n'est pas fermée.
Ouais, hein. Chacun peut rajouter ce qu'il veut.
Exactement.
Lorsqu'on le petit est malade, on est là pour réconforter, prêter main forte, pousser lors du sport, pour l'encourager. Je crois, je viens d'une partie du monde où le père, c'est une institution.
C'est ça.
Le père de famille, vraiment, c'est une institution à part entière.
Ça signifie qu'il est incontestable.
On peut le contester. Là. À l'époque, je me souviens, mon père, je le conteste tout le temps. Il n'y a pas quelqu'un... On n'est pas dans le leader, tu vois, genre, on n'est pas dans tout ce qui est incontestable, non, pas du tout. Il y a des... Ça dépend beaucoup de la culture, des sociétés patriarcales ou des familles patriarcales, parce qu'il y a des pères qui sont durs.
Ok.
Et lorsqu'on discute avec eux, c'est pour éduquer les enfants.
Est-ce qu'ils sont durs parce qu'ils sont pères ou est-ce qu'ils sont durs parce que c'est leur caractère?
C'est leur caractère. Le fait d'être père, c'est pas d'être dur, non, non, c'est d'être compréhensible, de dire je comprends et je te soutiens. J'essaye d'orienter, de conseiller, oui. Mais écoutez, d'être dur avec ses enfants, forcément après, ils vont se révolter. C'est comme le père de la patrie, être dur avec son peuple, ils vont révolter.
Oui, est-ce qu'ils sont durs gratuitement ou est-ce qu'ils sont durs pour que l'enfant s'améliore?
En théorie, ils sont durs pour que l'enfant s'améliore. Pour le bien de l'enfant.
Ok. Ce ne sont pas des actes de méchanceté.
Non, non, pas du tout.
Parce que parfois, certains qui contestent le patriarcat disent combattre les actes de méchanceté, de maltraitance.
C'est comme un couteau. Le couteau peut tuer et peut éplucher des patates.
Ok.
On peut se servir du bien comme du mal. Le côté patriarcal, on peut voir, on peut mettre en évidence tout ce qui est bien, mais si on cherche... Bah forcément, il y a des choses qui... Bah ils disent, oh non, c'est dur par rapport à ça, il ne faut pas faire ça. Non, écoutez, on ne dit pas que tout le monde est semblable. On ne dit pas que tout le monde est sur le même... C'est-à-dire qu'il traite, par exemple, ses enfants de la même manière. Mais le concept en lui-même, chaque père aime... ses enfants.
Est-ce que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut que le gouvernement gère la chose publique en bon père de famille?
Tout à fait. En bon, exactement. Pas en père de famille, en bon
en
père.
En bon père de famille.
Oui, oui. C'est ça. Il faut être un bon père de famille. Pas que sa famille. Tu sais. Il y a, comme tu as dit, le gouvernement, dans une société, le patron aussi, dans tout ce qu'on a. Dans son char, c'est le patron du char. Il gère les passagers qui sont avec lui. C'est
un bon père de famille.
Oui, un bon père de famille, tout à fait.
Écoutons René Martel, la fille de son père.
Sombre, papa, je pense à toi. Soudain, la lune belle surgit d'un coin du ciel et tu es près de moi. Je me revois chez nous, chanter sur tes genoux il y a si longtemps déjà. Et je reprends courage, tu me dis sois bien sage et me serre dans tes bras. Quand je traverse les villages où tu chantais encore hier, j'entends les gens dire au passage c'est bien la fille de son père. Quand je ne crois plus en rien, quand j'oublie d'où je viens, je marche dans tes pas et je touche au bonheur. T'es qu'au fond de mon cœur, je réentends ta voix. Tes accords de guitare rejouent dans ma mémoire comme ton doux sourire. Quand le printemps revient, j'entends siffler le train de tous nos souvenirs. Quand je traverse les villages où tu chantais, c'est bien la fille de son père. Si ce soir je t'écris, c'est pour te dire merci. Merci d'être avec moi. sur la route, sur la scène. Oui, cette vie que j'aime, je te la dois. Quand je traverse les villages où tu chantais encore hier, j'entends les gens dire au passage, c'est bien la fille de son père. Combien de fois dans mes voyages, dans ce pays beau comme l'hiver, j'ai entendu dans ton sillage, c'est bien la fille de son père. C'est bien la fille de son père.
Un lien très très fort entre un père,
oui,
et ses enfants, oui, et même sa fille. Entre le père et la fille, c'est...
On dit toujours, c'est la fille, c'est l'enfant. Bah, c'est l'aimé de son père. Son père l'aime, parce que la relation d'un père et d'une fille, c'est une relation spéciale, en fait. Parce qu'elle découvre l'homme, en premier lieu, chez son père.
Chez son père.
Et là commence... les premières, comment dire, elle va découvrir la relation d'amour à travers son père parce qu'elle va aimer son père comme un homme. Et si cette relation-là n'est pas saine, n'est pas bâtie sur, bah, le père doit la soutenir, doit la faire découvrir la vie, l'aimer. Si c'était pas le cas, presque toutes ces relations après, lorsqu'elle sera adulte, elles seront pas fondées. Là. Elles seront, il y aura toujours des crushs dans ces relations. C'est pour ça que les relations entre père et fille doivent s'installer sur une relation faite d'amour, de tendresse et d'admiration. Le père doit l'encourager et la soutenir. C'est lui qui le montre, le monde extérieur, et aussi l'aide à s'ouvrir sur le monde professionnel. Il a une lourde tâche par rapport à sa petite.
Ça, c'est quelque chose. Nous allons prendre une virgule musicale de nouveau. Et suivi d'une pause publicitaire, nous vous revenons tout juste après.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute CHIZ 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de CHIZ 94.3.
Nemo, on a une nouvelle mission.
Je suis prêt, Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveauté de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale.
Les entrevues.
Écoute locale. La playlist.
Lundi, 14h. On sauve la musique.
À CHIZ 94.3.
We'll be right back. cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là.
Les Remparts de Québec visitent le Drakkar de Baie-Comeau ce samedi 27 janvier à 16h. Rick Routier vous attend de 15h45 pour son habituel avant-match. Remparts Drakkar, samedi à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Présenté par SiriusXM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck Off est de retour pour sa 10e année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get the Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Fuck Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefuckoff.com pour plus d'informations.
Ahmed, tu nous parlais tout à l'heure de la relation particulière entre un père et sa fille. Mais c'est une... Avec ce que tu nous disais, le père a des devoirs sérieux parce que s'il aiguille mal sa fille... ça peut avoir une incidence négative dans sa vie.
Tout à fait.
Bon. Parce que... mais cet homme-là qui devient père, généralement, lui-même n'est pas encore achevé.
Oui.
Il est encore en construction. Mais il marche déjà sur des œufs, c'est une énorme responsabilité. Comment on peut équilibrer les choses pour espérer arriver à un résultat bon, à la fois pour le père... et pour la fille.
Écoute, il doit le faire dans toutes les circonstances. C'est pas qu'il n'est pas achevé, il doit être achevé. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a pas de... Sinon, pourquoi il fait des enfants? Pourquoi les enfants, c'est un choix? C'est un concept de vivre.
Mais c'est devenu un choix aujourd'hui parce que nous savons ce qui amène aux enfants.
Oui, tout à fait.
Mais il y a quelques siècles, on ne savait pas exactement.
Oui, même pas quelques années, même pas quelques siècles, c'est juste récent. Non, non, mais pour le concept actuel, pour de vrai, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Pourquoi forcer les choses? Parce que là, je vois que beaucoup de gens, bah ok, oh, je suis surpris, j'ai deux enfants, je sais pas quoi faire. Non, non, c'est un instinct qui est en nous. C'est simple, la recette elle est simple, c'est du sacrifice. C'est comme toi, t'étais né, t'as grandi, il y a d'autres parents, bah, tes parents, ils avaient les cheveux colorés, soit noir, soit blanc, soit je sais pas, ce qu'ils deviennent avec les cheveux blancs. C'est ça, pour que tu grandisses. C'est notre devoir à nous, sinon il n'y a plus d'humanité. On doit comprendre, c'est un cycle de vie. Notre empreinte sur Terre, ça sera nos enfants. Si, bah, on demande toujours que, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui dit que Dieu bénisse tes parents. Parce que j'ai fait du bien comme enfant. C'est ça qu'on cherche.
Mais parfois, bon, on peut bien agir avec de mauvais résultats sur les enfants.
C'est sûr. Bah, oui. Bah, parce que,
et être blâmé pour cela.
On essaie de faire dans la manière la plus optimale possible. On essaie de faire. Bah, on ne dit pas qu'on est parfait. On a tous des fautes. On essaie de lire, de s'éduquer, de demander des conseils aux autres personnes, aux gens que ils ont plus de l'expérience, plus de savoir que nous. Mais aussi pour être blâmé parfois. Et il ne faut pas être dur avec soi-même aussi. Ou les autres ne doivent pas être durs avec nous par rapport à ça. On doit vraiment essayer d'être un bon père ou un bon père de famille.
Écoutons cette leçon de vie de la sagesse aujourd'hui mondiale. C'est un petit conte qui ne dure pas trop, qui vient appuyer tes propos à toi. Leçon de vie. Alors qu'un homme nettoyait sa nouvelle voiture, son fils de 4 ans ramassa un caillou et fit des graffitis sur le côté de la voiture. Dans un accès de colère, sans même regarder ce que représentaient les graffitis, l'homme prit la main de son fils et la frappa plusieurs fois, sans se rendre compte qu'il frappait avec une clé à molette. À l'hôpital, le garçon perdit tous ses doigts à cause des multiples fractures dont ils étaient victimes. Quand le garçon vit son père tout triste à cause de sa blessure, il demanda « Papa, quand est-ce que mes doigts vont repousser ?» L'homme fut très secoué par la question et resta sans voix. Il repartit vers sa voiture et la cogna plusieurs fois. Dépité par ses propres actions, il s'assit devant la voiture. Alors il vit ce que son fils avait gribouillé sur la voiture et lut « Je t'aime, papa ». Le jour suivant, l'homme se suicida. La colère et l'amour n'ont pas de limite.
On n'a pas de limite, c'est ça. Ce conte, je l'ai lu plusieurs fois, je le connais. Écoute, c'est pour ça que je t'ai dit, on n'est pas parfait. La colère est une forme de folie, déjà. Il n'y a rien au monde, quel qu'il soit, ne vaut la santé ou la vie d'un enfant. Les choses matérielles, c'est comme le char, là. Le petit voulait écrire « Je t'aime, papa » avec un petit clou sur le char. Eh bien, qu'il écrive sur tout le char, sur toute la voiture, il n'y a pas de problème. Tu le prends en photo, tu le laisses un souvenir. Mais tu essaies d'expliquer, pas de conner. En fait, notre problème à nous, depuis longtemps, c'est la communication. On a tendance à utiliser les mains que utiliser la langue. Même si on utilise la langue, on utilise ce qui est la solution de facilité, c'est de crier. L'enfant, c'est une petite entité. Le fait de lui expliquer, il va comprendre. Il y a un proverbe d'où je viens, il dit « L'enfant, c'est comme un marbre. Si on le sculpte, il reste comme ça. » De 0 à 6 ans, c'est ça le fondement, la base, la base de l'édifice, de la personnalité de l'enfant. Si on met une bonne graine, on aura, à 20 ans, à 18 ans, à 19 ans, on aura de bons fruits. Si l'enfant regarde et apprend tout ce qui est mauvais à travers la relation père-mère, à travers les relations familiales, à travers ce qu'il voit dans la rue, à travers ses relations avec son père, par exemple, pour le sujet d'aujourd'hui, après, ça va se retourner contre nous comme parents ou comme papa. L'enfant, c'est notre miroir à nous. Il faut toujours se mettre en question chaque fois par rapport à notre enfant. Il ne faut pas faire comme ce monsieur-là, c'est la solution de facilité. Après, bon, il a pris une autre mauvaise solution, c'est le fait de disparaître de la vie de l'enfant, se suicider. L'enfant a besoin d'un support familial présent, bien dans sa vie. C'est pour ça que le mot que tu as dit tout à l'heure, être un bon père de famille.
Écoutons Johnny Hallyday, ce que l'amour a blessé.
Revenant de guerre, comme des revenants du front, ils ont la peur aux yeux, ils ont la ride au front. Comme des jeunes vieux, ils marchent le dos courbé, ils font un peu pitié, ils font un peu pitié. Ce que l'amour
faire leur vie, à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur. Ouais, comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ah, ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants chez soi.
Puisque le papa peut aussi ne pas être encore un être achevé, malgré ses responsabilités, mmh. il faut protéger l'enfant.
Tout à fait.
La communauté veut protéger l'enfant. Mmh. Bon, parfois, contre un père qui n'est pas suffisamment compétent.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses
de... C'est le rôle de la société. C'est pour ça qu'il y a des institutions. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est pour ça qu'il y a une éthique dans la société. C'est pour ça qu'on a mis des règles. C'est pour le bon vivre. C'est pour préserver ce qu'on appelle préserver le bon développement de l'enfant. Si un des parents ou le papa et n'est, bon, c'est juste un père, ou parfois même pas, qu'il a même pas un père, juste il a procréé un enfant, c'est tout.
Et là, donc, c'est un géniteur.
C'est un géniteur, c'est comme si dans une banque de sperme, c'est tout. Et il n'a pas le rôle, il n'est pas là. Il s'en fout, tu vois, de développement de l'enfant. Là, c'est le rôle de la société, c'est le rôle des lois qu'on a mis ensemble pour le bon vivre, de prendre ces institutions, de prendre le relève et veiller au bon développement de l'enfant.
Écoutons encore Jean-Pierre Winter dans L'avenir du père, quelques autres bonnes feuilles. Quand la loi efface le père. Les sociétés contemporaines inclinent vers moins de pères. Elles insistent sur la fraternité et l'égalité, quoique moins résolument sur cette dernière. Le déclin du père est dicté par des processus sociaux qui paraissent irréversibles. Les avancées biotechnologiques viennent opportunément à l'appui du refus de toute hiérarchie, du moins de toute hiérarchie familiale. Mais le refus de toute hiérarchie implique-t-il l'abolition des différences entre les rôles? Effacer le père dans l'histoire d'un enfant, c'est rendre opaque toute la succession des pères qui s'est sédimenté au long de l'histoire pour aboutir à celui qu'une femme reconnaîtra comme un père possible pour son enfant. Je vais répéter. Effacer le père dans l'histoire d'un enfant, c'est rendre opaque toute la succession des pères qui s'est sédimentée au long de l'histoire pour aboutir à celui qu'une femme reconnaîtra comme un père possible pour son enfant. Et là, nous confortons de nouveau la législation romaine qui dit « pater ises quam nuptiae demonstrant » que le père d'un enfant, c'est le mari de sa mère. C'est-à-dire, comme un homme capable d'endosser ce que tu disais tout à l'heure, d'endosser la charge symbolique sans laquelle il ne pourra pas trouver sa place de père. Il porte en lui, dans sa langue, dans ses symptômes, dans sa propre histoire, dans ses manières d'être et ses façons de penser, dans ses silences et dans son nom, une partie énigmatique qui se combinera avec ce que transmet la mère. La mère ne se réduit pas plus à la maman que le père ne se réduit au papa, mais ce qu'elle transmet passe autrement. De cette combinaison de deux désirs et de deux histoires, tous deux marqués par le sexe et par les générations successives, s'extrairont les traits consécutifs de la psyché de l'enfant. Ce avec quoi il grandira, ce que tu as rappelé tout à l'heure. Oui. Le père, disait le poète Gustav Metterlinck, est à la fois le mandataire provisoire du passé et l'organe momentané d'une multitude à venir. Que ce chaînon intermédiaire entre le passé et l'avenir vienne à manquer par accident, accident de la vie ou réticence du désir, ou qu'il soit effacé par décision légale, ce n'est pas du tout la même chose. La décision légale agit directement au niveau symbolique. Elle supprime non un être, mais une place. Tous ceux qui auraient pu l'occuper sont d'avance disqualifiés et, avec eux, ceux qui l'ont occupé par le passé. Autrement dit, ils sont morts d'avance, ce qui les renvoie du côté du père de la horde. On les accusera d'un patriarcat en partie fantasmatique. On ne saura plus lire la connaissance de l'humain qu'ils pouvaient porter en eux. La résonance de leur voix disparaîtra-t-elle pour autant? Il est à craindre que nos enfants ne recherchent des points d'appui auprès de ceux qui savent exploiter à leur profit la haine que susciteront toujours un rival, un empêcheur, un représentant de l'autorité et tout être plus fort que moi. La haine assassine ou mène au désespoir, ou plutôt les deux. Alors que l'ambivalence du père à l'égard du fils et du fils à l'égard du père ont une chance de devenir structurante lorsqu'ils peuvent s'entendre et s'affronter. Tu as rappelé à un moment, quand je t'ai dit que le père, est-ce que le père était une figure d'autorité incontestable? Tu m'as dit qu'on le contestait régulièrement.
Oui.
Bon, mais que c'était quand même une autorité.
Bien sûr, bien sûr. On respectait notre père. Bah, c'est une autorité. Sors pas, ne sors pas. Il n'y a pas que... Bah, l'adolescence, c'est autre chose, mais quand on était enfant, c'était l'autorité de la famille. C'était l'autorité de l'enfant.
Mais même adolescent,
oui.
Même si on sort... On sait qu'on est en train de commettre
oui,
une
tout à fait.
Transgression.
Même quand j'étais adolescent, même mon père dit non, ne va pas. Et non, papa, je suis là, là, j'ai grandi, et j'y vais. Et c'est pas le même fun. On a quelque chose en nous, dans notre corps, qui nous pique, genre. Je sais que mon père, il m'a dit non. C'est pas la même joie dans la soirée, par exemple, que, par exemple, si j'étais avec... Ok, d'accord, vas-y, fais gaffe à toi, genre. Non, il y a toujours... Je pense toujours qu'il m'a dit non. Et chaque chose qui m'arrive, je dis, ah, c'est pas ce que mon père...
Mon père m'a dit.
Ouais, il était pas heureux parce que je suis parti là. Et j'essaye de recadrer tout et revenir vite. En fait, c'est ça, je dis toujours, le noyau familial, le noyau du père, le père qui est présent, c'est une chose très, 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 très important dans le développement de l'enfant. Bah, s'il est mort, c'est autre chose. Mais s'il est en vie, il doit être là pour soutenir ses enfants.
Écoutons Yves Dutheil. Les choses qu'on ne dit pas.
J'ai inventé des mots jaillis de nulle part et repoussé les murs de pierre de ma mémoire. Pour agrandir le monde et cacher mes trésors, je chercherai peut-être bien longtemps encore. J'ai trouvé quelquefois le bonheur et la joie. Je me suis réveillé un jour auprès de toi. J'ai murmuré des nuits entières, des mots d'amour et de lumière. Mais ce qui m'a rendu le plus heureux sur terre, ce sont les choses qu'on ne dit pas, les vrais secrets qu'on garde au fond de soi. Ce sont les choses qu'on ne dit pas, parce que les mots n'existent pas. Et c'est souvent dans ce qui reste à dire que sont cachés les plus beaux souvenirs. Ce sont les choses qu'on ne dit pas, parce que les mots n'existent pas. J'ai fait le tour de ton amour au grand complet, et j'ai fermé la porte à clé sur nos secrets. C'est un drôle de jardin rempli de tout ce qui n'est rien pour les autres et qui pour nous est la vie. C'est le silence le plus intense que je connaisse, où se referment les blessures de nos tendresses. Qui me rassure dans mon sommeil, qui me sourit quand tu t'éveilles, et qui réchauffe aussi mon cœur comme un soleil. Ce sont les choses qu'on ne dit pas, les vrais secrets de mon amour pour toi. Ce sont les choses qu'on ne dit pas, parce que les mots n'existent pas. Et c'est parfois dans un regard, dans un sourire, que sont cachés les mots qu'on n'a jamais su dire. Toutes les choses qu'on ne dit pas, et dont les mots n'existent pas. Toutes les choses qu'on ne dit pas, mais que l'on garde pour toujours au fond de soi, et qu'on emporte en l'au-delà, là où les mots n'existent pas.
Alors ici, cette chanson rappelle que quelle que soit notre force en communication, on ne sera jamais capable de tout dire, de tout expliquer de façon à être correctement compris. Bon, et parfois aussi, ça c'est d'un point de vue personnel, peut-être que l'enfant ne comprend pas qu'on lui ne lui donne pas la permission d'aller à un certain endroit. Il ne comprend pas que c'est pour son bien.
Tout à fait.
Bon, alors là, on apparaît, puisqu'on est la personne qui dit non, on apparaît comme... on joue le mauvais rôle.
Le gourou.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bon. Et est-ce que ce rôle-là peut nuire au père? À la langue.
Non, je crois que non. Parce que l'enfant déjà grandit. Déjà, sa perception change. Il y a l'enfant, il y a pré-adulte, le pré-adolescent, l'adolescent, pré-adulte et adulte. Moi, je fais la projection sur moi-même. La perception a beaucoup changé. Depuis mon enfance, puis adolescent, puis adulte. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai compris.
Attends un peu. Tu dis que ta perception a beaucoup changé.
Oui.
Mais comment es-tu devenu syndicaliste?
C'est ça. Quand je tiens de l'esprit,
je veux te taquiner.
Ben c'est ça. Là. Non, non. Chez nous, les syndicalistes changent. Ils peuvent maigrir d'ici ou là.
Parce que je vois que malgré les efforts du gouvernement du Québec,
oui, j'ai vu.
Les syndicats continuent de. Hein,
le vote ne suit pas là.
Le vote ne suit pas encore. Trop, bon,
c'est ça. En fait, moi, je viens d'une. J'ai côtoyé beaucoup une centrale syndicale.
Mm-hmm.
Mais le bureau exécutif, le secrétaire général, lorsqu'on se met d'accord, on se met d'accord. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas entre non, je vais voir, je vais voter. Non. Le vote, quand je vote pour Augustin Béchy, mm-hmm. je lui donne une procuration de me représenter. N'est-ce pas?
Oui.
D'accord. Dans son mandat, il va me représenter. Sinon, dans les prochaines élections, je ne vais pas voter pour lui. Alors, M. Augustin Béchy a pris la décision de mettre fin à une certaine manifestation.
Oui, une manifestation, okay. Oui, c'est ça.
Je dois me plier à ça parce que je lui ai donné mon vote, déjà. Je dois me conformer à ça.
Oui, mais ça ne m'a pas enlevé mon cerveau. Je dois quand même dire que la négociation qui est faite a des petits trous, a des insuffisances, a des carences.
Chaque négociation au monde a des petits trous. On a parlé de ça, j'avais dit. Oui. Il n'y aura jamais à 100%, on est d'accord.
Exactement.
Il y a toujours, toujours des personnes qui ne veulent pas. Où ils ne sont pas satisfaits, il y a toujours ça. Les négociateurs doivent... C'est un calcul, en fait. Ils doivent avoir un certain pourcentage de personnes qui les soutiennent. D'accord. Je vais pousser à la limite.
Mm-hmm.
D'accord. La majorité n'accepte pas le résultat des négociations. Mm-hmm. Comment on va faire?
Mais on a déjà un accord préalable. On dit toujours que la loi prévoit pour l'avenir. Bon, donc, on s'est entendu qu'on est d'accord.
On s'est entendu pour ne pas...
Nous sommes ici dans une façon de oui, mais...
C'est un oui politique, je dis. Le oui, mais c'est un oui politique.
Moi, je ramène toujours ça à l'enfant qui évolue.
Oui.
Bon. L'enfant est toujours dans le oui, mais...
Non, je crois qu'ils ont évolué, eux, mais... Oui, l'enfant, et on doit l'expliquer...
Tu reviens avec ça après la virgule sonore et la pause publicitaire.
Ça marche.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En Moukaosit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosit. Anmukeosit, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Ahmed, nous étions dans ton explication du « oui, mais » de l'enfant qui évolue.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas une espèce de rebelle en progression tout le temps qui secoue régulièrement les colonnes du temple, en bien ou en mal?
Écoute, tout, t'as tout expliqué. C'est un rebelle en herbe. C'est un rebelle en évolution.
Oui.
Et nous?
Parce que l'enfant est, au fur et à mesure qu'il progresse, il est de plus en plus sophistiqué.
Oui. Écoute, moi, je suis partisan de la théorie qui dit que l'enfant doit apprendre en jouant.
Ok.
Il apprend lorsqu'il tombe, la mémoire corporelle. Mm-hmm. Lorsqu'il a mal, lorsqu'il tombe sur son genou, il a mal. Là, c'est la mémoire corporelle. Il apprend en touchant. Mm-hmm. Il apprend en jouant, en touchant la nature. Mm-hmm. Et j'ai un concept qui dit aussi que l'histoire, ça ne s'écoute pas, ça se touche. Mm-hmm. C'est ça aussi. Alors, l'enfant, dans tout son développement et sa croissance, doit toucher pour apprendre, doit sentir, doit écouter, doit s'imprégner de tous les facteurs qui existent dans cette vie.
Est-ce que ce que tu dis là pour l'enfant n'est pas aussi valable pour le père?
Tout à fait. Le père, c'est un grand enfant, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier. Bah, le jouer à quatre pattes, là, jouer le cheval ou jouer le chien en fin de semaine, aussi c'est un enfant. Et le père, il doit apprendre. Tu sais, on dit toujours que les femmes sont des êtres plus mûrs, plus que les hommes. Ils deviennent adultes plus vite que les hommes. Oui, tout à fait. Les femmes, ils ont une force énorme par rapport aux hommes. On multitask, ils font beaucoup de choses. Les hommes, nous, on est des grands enfants. Qu'on joue. Si on a des enfants, si on a nos petits avec nous, on sera des enfants comme eux. On jouera comme eux, genre un enfant géant d'1m90. Dans un 4,5, il faut préparer ça aussi.
Exactement. Exactement. Bon. Alors, ici, nous allons écouter Joan Baez nous chanter Blowing in the Wind.
Écoute toute la réponse s'en va. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort, weiß ganz allein der Wind. La respuesta, mi amigo, está sonando en el viento. La respuesta está sonando en el viento. For the Japanese tourists, Ikai Moya, Oso. The answer, my friend, is blowing in the wind. Oh, the answer is blown in the wind. Merci
beaucoup. Fonction paternelle. Là encore, je prête ma voix à Jean-Pierre Winter. Il en va du père, un peu comme de ce que le psychanalyste anglais Winnicott formulait dans son expression de mère suffisamment bonne. La question décisive pour l'avenir de l'enfant n'est pas de savoir si la mère a été une, entre guillemets, bonne mère, mais si sa relation à l'enfant a ouvert l'espace nécessaire à son développement psychique. Les ravages commis par une mère parfaitement bonne, une mère toute mère, sont connus. L'enfant reste coincé dans un statut d'objet aimé ou mal aimé. Les symptômes qu'il produit dans ce cas montrent qu'il se débat tout de même pour faire place à sa propre singularité. Pour qu'un enfant se développe de façon supportable, il y a nécessité d'un espace autre, et c'est cet espace autre que la fonction paternelle fait exister pour lui. À lui d'articuler l'un à l'autre les deux espaces, maternel et paternel, sachant qu'ils se sont conjugués au moins une fois et qu'il est issu de cette rencontre. Ce qui fait qu'un père tient ou non sa place est pour l'essentiel une fonction. Lacan, spécifiant comme toujours la pensée de Freud, lui donne le nom de fonction paternelle. En quoi consiste cette fonction propre au père? C'est ce que nous essayons de circonscrire dans ce discours que nous tenons aujourd'hui. Je ne sais pas, tout à l'heure nous avons laissé chanter Joan Baez, une chanson de Bob Dylan. Écoute la réponse dans le vent. La réponse peut venir de partout.
Oui.
On continue de se former toujours. Alors, entre les papas et les enfants, qui est plus indulgent et qui a droit à de l'indulgence?
C'est une question difficile, écoute. Tu sais, ce qu'on reproche toujours aux parents, bah, ce que je me reproche tout le temps, genre, c'est que je cède toujours.
Ok.
On peut pas résister aux yeux d'un enfant. C'est que la relation, elle est, en fait, elle est très très complexe. Il y a des adultes qui n'aiment pas les enfants, mais lorsqu'ils voient leur propre enfant, ils changent, ils virent de cap complètement. Il y a des parents qui a des adultes qui sont pas indulgents avec leurs enfants.
Bon, excuse-moi, c'est toi qui parles, mais est-ce à dire que dans les compétences du père, il y a l'indulgence?
Oui. Oui, il y en a. Et ça participe beaucoup à la croissance de l'enfant aussi.
Bon, moi j'ai une petite phrase que je dis souvent, parce que je ne veux pas toujours entendre les explications que me donnent les enfants, que je trouve souvent farfelues ou tirées par les cheveux. Je leur dis, je suis votre père, je ne suis pas votre juge.
Oui, on le dit toujours ça.
Oui, Moi, c'est pour arrêter les...
Oui.
C'est... Les explications, parce que...
C'est non. C'est... On a dit ça, c'est ça. On va pas changer. C'est un non. C'est tout. Mais...
Parce que quand les enfants m'expliquent des choses... enfin, une chose et son contraire en même temps.
Oui.
Bon, et que j'ai la tête qui tourne. Bon, je finis par arrêter la discussion en disant je suis le père, je ne suis pas le juge.
C'est l'autorité qu'on parlait tout à l'heure aussi.
Bon, c'est ça. Mais...
Tu l'exerces ici et tu l'exerces à la famille. Merci bien, cher Augustin.
C'est que ils veulent qu'on prenne une décision.
Oui, tout à fait.
Dans un certain sens.
Pas forcément, bon. C'est à toi de la prendre finalement. C'est de dire,
Pas forcément.
Mais oui,
parce qu'il y a aussi la pression sociale.
Oui.
La pression familiale. Bon, on s'est dit, bon, ok, on va essayer quand même cette approche, même si elle ne nous rassure pas. La peur, la boule au ventre. On accède aux volontés des jeunes.
Oui. On n'a pas le choix, tu sais.
Bon, c'est ça, c'est parfois, ce que je voulais dire.
Parfois,
que malgré la figure d'autorité que nous représentons, il y a des décisions où on doit suivre.
Écoute, tu dis que malgré l'autorité... Oui.
Oui.
Qu'on mais on n'est pas des dictateurs.
Non.
C'est ça.
Surtout pas.
Tout
parce qu'un père n'est pas un dictateur. C'est même le contraire du dictateur.
Tout à fait. On dit toujours ça. On ne doit pas être trop raide parce qu'on se casse.
Exactement.
On ne doit pas être trop mou.
Trop mou aussi.
Parce qu'après, on doit chercher le juste milieu. Il y a toujours. Bah, normalement, c'est nous, les adultes. C'est à nous de juger.
Mm-hmm.
Même aux yeux de la loi. C'est nous, que si l'enfant fait quelque chose ou l'adolescent avant l'âge adulte, c'est les adultes qui seront là. On est indulgent à un certain point, à un certain niveau. Parce que finalement, si on dit tout le temps non, le non, il y aura plus de sens. L'enfant va dire que, bah d'accord, je ne vais plus dire à papa, il dira toujours non. Et je vais faire les choses à ma manière. Je crois que la relation, surtout père-enfant, doit être une relation d'amis. Il y a un concept d'ami-père. Je ne sais pas si tu partages le même avis. C'est l'ami-père, c'est-à-dire qu'on partage tout. Tu me racontes tout et j'essaye de comprendre, faire des reflets et de conseiller pour avancer. On fait un partage d'expérience.
C'est pourquoi tout à l'heure, je te posais la question... Enfin, je ramenais, compléter ton discours en disant que ben, le père, très souvent, avec l'évolution de l'humanité, les générations se sont rapprochées.
Mmh.
Oui. On n'a plus un père de 60 ans. On a de moins en moins les pères de 60 ans. On a de plus en plus les pères de 20 ans, 20, 30 ans. Parfois même de moins en moins des pères qui sont entre 15 et 20 ans. Alors là, nous avons affaire à deux enfants.
Là, deux enfants. Pas un père-enfant, ça des deux enfants. Là, un père à 15 ans, 20 ans.
C'est ça.
Et il a pas, il n'a même pas fait ses expériences de vie.
Tout à fait.
Ses relations pour fonder une famille.
Bon.
Il n'a pas expérimenté ses limites en tant qu'adulte.
C'est pourquoi je voulais rebondir sur le fait que, bon, quand on a un ami, parce qu'il peut arriver que ce soit deux amis, le père a 15 ans quand il a l'enfant, ça fait que quand il a 30 ans, son enfant en a 15.
Oui.
Ils peuvent être de très bons amis, même des compagnons de jeu.
Tout à fait. Écoute.
Bon. Ou alors des ennemis.
C'est des ennemis jurés. Il y a les deux. C'est pour ça qu'on ne doit pas être ni raide ni mou.
C'est ça.
C'est juste milieu. C'est pour ça que je dis que le concept d'un parent ami, même s'il est vieux et l'enfant est petit, ils doivent être amis.
Mais le parent, je crois que sa première tendance, c'est d'être le meilleur ami possible de son enfant.
Oui.
Bon, mais il peut arriver que, malgré ses efforts, il y ait un phénomène de rejet.
Oui.
De la part de l'enfant.
C'est le conflit.
Qu'est-ce qu'on fait ?
C'est le conflit générationnel. Ben, on doit comprendre. Parce que chacun sa personnalité, chacun sa vie, mais le rejet d'amitié ou de confidence, ou c'est un rejet de qui soit un père.
Bon, ben, maintenant,
il doit être. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ?
Maintenant, oui, je vais prendre l'exemple. Quand l'enfant est petit, mm-hmm, et qu'on l'amène à l'école, il nous confie tout. Mmh. Bon, après, quand il commence à s'habituer à l'école, il nous confie de moins en moins.
C'est tout à fait normal.
Bon. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, c'est tout à fait normal. Alors, donc, à un moment, il est tellement éloigné, mmh, que quand il est adolescent, il ne supporte plus qu'on entre dans sa chambre.
Mmh. Écoute, ça c'est bien d'évoquer ça. Écoute, là c'est la faute, c'est pas la faute, mais c'est le reflet des parents. Même si notre enfant dès le début, nous dit tout, puis commence à s'éloigner.
Mmh.
D'accord, on comprend parfaitement. Il a besoin d'un petit coin de jardin secret.
Tu vois, okay,
qu'est-ce que je... Mais on est toujours là pour notre enfant.
Exactement.
On est toujours là. Il sait très bien que au cas où il y a un petit pépin, mmh, il y a toujours quelqu'un qui va le soutenir derrière.
Tout à
fait. Il n'est pas loin. Il sait très bien que même qu'il ne veut pas son père lui accompagner jusqu'à la porte de l'école, il sait très bien que son papa est à 2 mètres de la porte.
Exact.
Il sait ça pertinemment. Et lorsque les parents sont éloignés de l'enfant, émotionnellement et physiquement, forcément, à l'adolescence, le petit, elle a grandi sans la présence émotionnelle et physique de ses parents. Mmh. Bah forcément, après, qu'est-ce que vous voulez ? Eh, ma chambre, c'est mon monde à moi. Vous n'entrez pas chez moi. Et en fait, si en plus de ça, la société impose ce style de vie, bah forcément, on aura des enfants indépendants de leurs parents. Même si les parents veulent bien faire.
En tout cas, personnellement, je suis pas là pour parler de moi, mais j'aime bien la réciprocité. Mmh. C'est-à-dire que autant ma chambre est ouverte à tout moment pour les enfants, autant je souhaite que la leur soit ouverte tout le temps pour nous aussi. Enfin, non seulement pour moi, mais pour toute la famille. C'est pour habituer les gens à ne pas être insécure, à ne pas se réfugier à la première insécurité, à la première alerte, à la première incongruité. Mmh. C'est-à-dire de savoir que le monde dans sa globalité, peut être un endroit agréable et pas toujours menaçant. C'est ça.
Et je me souviens quand j'étais petit, on fermait pas. Des portes on avait. Mais,
exactement.
Mais toutes les portes, chez nous, la porte extérieure, elle est fermée.
Aujourd'hui, j'ai de la misère à fermer une porte.
Tout à fait. Toutes les portes sont ouvertes.
C'est ça.
Et il faut comprendre si, par exemple, si on ferme les portes devant un enfant, on a des grandes bâtisses à l'école. Des grandes clôtures.
Mmh.
Ça restreint la vision. La vision, c'est pas avec les yeux. Non. La vision de l'âme, la vision créative.
Exact.
La vision artistique, l'imaginaire de l'enfant. On le restreint avec les portes, avec les murs, on cadenasse tout. Non. Tout est interdit, n'est pas permis. Non. L'enfant doit apprendre en expérimentant. Il y a des règles, on est d'accord.
Mmh.
Oui. Pour son bon développement, pour sa sécurité, oui. Mais après, il ne faut pas abuser aussi. Si on met trop
de règles,
l'enfant grandira, il va grandir, il ne va pas trouver son équilibre. Et après, on devra courir pour chercher l'équilibre de l'enfant.
Ouais.
À la base, la nature, on est créé dans la nature.
C'est ça, nous sommes des êtres libres. Et les lois nous restreignent, oui.
Le célèbre sociologue maghrébin de l'époque médiévale, Ibn Khaldoun disait que l'homme avec un grand H, est civil de nature. L'homme ne peut pas vivre sans les autres, sans tous les phénomènes de la nature qui est autour de lui. On ne peut pas vivre isolé.
Non, l'homme est un animal aussi. Social, comme tu dis.
Tout à fait.
J'ai vu un dépliant du gouvernement du Québec et il m'a semblé opportun pour cette émission. Être père, la belle aventure. Un père, c'est essentiel. Un enfant a autant besoin d'un père que d'une mère, que ce soit pour l'affection, la tendresse, le désir de s'identifier à un modèle ou l'affirmation de sa propre identité. Les spécialistes qui ont scruté la question sont unanimes. Le père joue un rôle primordial dès le plus jeune âge de l'enfant. Ce dernier s'identifie aux adultes qui vivent avec lui. La présence du père est donc aussi importante que celle de la mère. Une identité forte et équilibrée. La psychologie moderne soutient que dès la petite enfance, une relation chaleureuse et affectueuse avec le père aide le garçon à se bâtir une identité forte et équilibrée. Et les filles qui reçoivent un bon soutien affectif paternel durant leur enfance et leur adolescence ont davantage confiance en elles plus tard. De plus, selon certaines recherches, les enfants qui ont reçu beaucoup d'attention de leur père prendraient plus d'initiatives personnelles et aborderaient leurs études avec plus de confiance. Une référence affective fondamentale. On n'a pas toujours les mots qu'il faut pour parler du rôle du père. On semble encore à court de vocabulaire. Par exemple, on ne dit pas couramment que le père paterne, alors que l'on dit que la mère, de la mère qu'elle materne. Une chose est sûre cependant, quand un homme prend soin d'un enfant, il peut le faire avec autant d'amour, de plaisir et de succès. Il le fait de manière différente et c'est très bien ainsi. Pour un enfant, l'amour de son père a la même valeur que l'amour de sa mère. Alors, allez-y, soyez affectueux, montrez votre intérêt, soyez attentif, écoutez, câlinez, dites votre amour. Ouvrez grandes les portes de l'univers des petits. Il y a là des trésors qui n'attendent que vous. Les premiers contacts. Vous garderez toujours le souvenir du moment précis où vous avez tenu votre enfant dans vos bras pour la première fois. La fragilité de ce petit être, l'immense tendresse qui monte en vous, voilà que le miracle s'accomplit. Un père est né pour la vie. Avant la naissance, la grossesse et la naissance sont des moments privilégiés pour les futurs pères qui sont maintenant conviés aux premiers instants de la vie familiale. Profitez des 9 mois de grossesse pour apprivoiser votre futur rôle de père. C'est le temps de vous informer, mais aussi de vous lancer entièrement dans cette belle aventure. À la naissance, pour ce qui est de l'accouchement, il n'y a pas de modèle unique. Vous ferez valoir le lieu et la façon de faire qui correspond à vos valeurs de couple. C'est avec l'arrivée du bébé que votre rôle de père commence vraiment et il vous appartient de vous inventer le plus beau rôle de votre vie. La compétence dans les soins que l'on donne aux enfants n'est pas génétiquement répartie entre les hommes et les femmes. Au contraire, c'est plutôt une question d'attitude, d'empathie, d'intérêt. S'il est un domaine où l'on apprend par la pratique, c'est bien celui-là. Tout comme l'expérience de la maternité, la paternité n'a rien d'une notion abstraite. C'est donc par des gestes concrets et une attention de tous les instants qu'elle se vit et se manifeste quotidiennement. Les soins donnés au bébé, les petits mots, les caresses, les moments d'intimité que vous prendrez plaisir à créer seront bientôt votre réalité de papa. Bref, de votre paternité, vous apprendrez les devoirs et les responsabilités et vous découvrirez les extraordinaires privilèges qui y sont rattachés. Un père, c'est quoi au juste? Être père, c'est d'abord et avant tout comprendre et assumer l'immense responsabilité que représente un enfant. C'est le reconnaître pour ce qu'il est, en prendre soin, s'en occuper. Si nos pères et nos grands-pères étaient confinés, il n'y a pas si longtemps, à un rôle plutôt rigide, nous sommes aujourd'hui passés à une paternité profondément transformée. Une paternité qui laisse de plus en plus de place à la diversité dans les façons de faire et d'être, car il y a autant de façons d'être père que d'hommes qui le deviennent chaque jour. La conciliation travail-famille. Trouver l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle peut devenir un véritable casse-tête quotidien s'il n'y a pas de partage équitable des tâches familiales. Heureusement, les hommes d'aujourd'hui passent plus volontiers à l'action dans ce domaine. Ils établissent avec leurs conjointes des rapports plus égalitaires et plus satisfaisants. Ce partage s'étend aussi aux relations affectives avec les enfants. Partez du principe qu'il n'y a pas de parent principal chez vous. Vous êtes tous les deux responsables de vos enfants et des soins à leur donner. Prenez votre place, n'hésitez pas, développez vos compétences, trouvez la manière qui vous convient de faire les choses, de créer les liens. Les organismes communautaires. Il y a probablement près de chez vous un organisme communautaire appelé Maison des Familles ou portant un nom semblable. De plus en plus, on y accueille des pères. On leur offre des activités entre pères et des activités pré-père-enfant. Ces rencontres sont très appréciées. De plus, les ateliers de discussion et d'échange entre pères et mères sont parfois proposés. C'est un prospectus. J'ai pensé qu'il avait sa place dans notre conversation d'aujourd'hui.
Tout à fait.
Oui. Et nous allons faire encore une virgule musicale, suivie d'une pause publicitaire. Et nous revenons à toi, Ahmed, pour tes commentaires là-dessus.
Ça marche. Mmh.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous recherchez une émission qui donne la parole au peuple, travaille pour les intérêts du peuple et aborde les problèmes quotidiens de la vie? Ne cherchez plus. La Tribune pour le Peuple, l'espace des libertés pour s'exprimer, votre émission incontournable animée par Jean-Luc Oumba Le Bantou, chaque mercredi à partir de 14h sur Cheese 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Becci.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là-bas.
Les Remparts de Québec visitent le Drakkar de Baie-Comeau ce samedi 27 janvier à 16h. Rick Routier vous attend de 15h45 pour son habituel avant-match. Remparts Drakkar, samedi à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tout à l'heure, j'ai lu un prospectus d'information qu'on peut retrouver dans le site internet du ministère de la Famille. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, ça explique. Ça explique.
Ça reprend un peu.
Oui, ça reprend beaucoup de choses.
Oui.
Et ça explique beaucoup de choses. Tu sais, un des plus grands dilemmes, grande équation de vie qu'on a, lorsqu'on est père de famille ou mère de famille, c'est de faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est très dur. L'enfant, bon, durant son bas âge, ok, d'accord, il est avec la famille, il a le congé maternité, le congé paternité, quelqu'un doit travailler finalement, bah, il prend ses distances là. C'est ça. On peut pas parler d'équilibre. Soit le père va prendre ses distances, il doit après faire le double d'effort ou triple d'effort durant les week-ends ou durant ses deux jours de repos. Et après, il y a l'école. L'enfant sort de l'atmosphère familiale, il va à une autre atmosphère, il passe le plus de temps.
De plus en plus.
Oui, à l'école. Plus de temps conscient. À l'école, parce qu'après, il rentre genre 2-3 heures à la maison et pour souper et il dort.
C'est ça.
Il doit apprendre à l'école. Là, il commence à être un petit peu éloigné de ses parents. Là, on doit adapter notre vitesse aussi par rapport à l'enfant. On doit adapter notre présence par rapport à l'enfant et doit être présent. Malheureusement, les contraintes de vie nous limitent beaucoup. Il y a des parents qui veulent accompagner leur enfant chaque matin et entrer avec eux chaque soir. Mais ils peuvent pas parce qu'ils travaillent. Le couple travaille. Avec l'inflation qui existe, c'est très difficile si quelqu'un... Une heure de travail, ça comptabilise à la fin de la paye, lorsqu'on reçoit la paye. Et le concept qu'on a aujourd'hui, on arrive à sa limite. On a trouvé d'autres solutions, d'autres... alternative par rapport à ça, malgré tout ce qu'on a autour de nous qui favorise la présence des parents avec leurs enfants.
Tu m'as devancé dans une question. Est-ce que notre modèle social correspond encore à notre modèle familial?
Non, je crois pas. Je crois
Alors,
pas.
Alors, dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire pour de bons ajustements?
On doit avoir le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie familiale. Bon, après la pandémie, ils ont trouvé la solution de télétravail hybride.
Oui, excuse-moi, tu vas continuer ton explication. Quand j'étais plus jeune, on nous enseignait la règle des 3-8. Eight hours to play, 8 hours to sleep, 8 hours to work, you have a day. Bon, donc, maintenant, comment peut-on changer la règle des 3-8?
C'est à toi de me dire. C'est toi qui as le plus d'expérience ici.
Oui, j'ai plus d'expérience, c'est vrai, mais à son de cloche, nous, on accueille toujours
les nouvelles expériences.
Oui, les nouvelles expériences.
En fait... c'est très difficile de se prononcer, tu sais, parce que j'ai toujours en tête, je me vois pas, je me projette. Mm-hmm. La grande classe, c'est la classe moyenne.
Ok.
D'accord. C'est la classe des travailleurs, des gens qui se lèvent le matin, qui travaillent, ou le soir, qui ont 7 heures de travail, 35 heures par semaine, mm-hmm. qui travaillent dans un couple, avec des enfants, mm-hmm. c'est vraiment dur pour être toujours présent par rapport aux enfants.
Parce que quand moi j'ai calculé la règle des 3-8, mm. elle ne collait plus quand on avait une famille. Mm. Parce que il fallait grignoter sur oui. Les 8 du plaid.
Oui.
Et des 8 sur le slip.
Oui. Parfois, on laisse les 8 du slip de dormir. Mm-hmm. On y grignote sur les autres 8. Moi, je préfère que l'enfant, pour de vrai, mm-hmm. ce que je fais, mm-hmm. L'enfant, je le laisse dormir pleinement, les 8 heures, même plus.
Oui, même plus. Même ça, plus. Ça, c'est certain.
Pour sa croissance.
Oui.
Mais avant de dormir, il y a toujours le câlin, l'histoire, mm-hmm. Pour développer son imaginaire. C'est-à-dire que j'essaie de combiner, chevaucher 2 ou 3 choses avant de dormir. Sur le lit, tu vois. Mm-hmm. L'histoire, le câlin, je t'aime, ma petite, ou je t'aime, mon petit, mm-hmm. bonne nuit, tout ça. Mm-hmm. Ça reste imprégné dans le subconscient de l'enfant. Mais avec tous les dilemmes qu'on a dans la vie, c'est très difficile. Pas que physiquement, mais moralement. Tu sais, la plupart des parents, maintenant, là, comme on dit, nous, on court derrière la vie. Mm-hmm. Ça affecte notre psychologie. Après, on est épuisé physiquement et moralement. Le difficile, le physique est simple. On a le courage de, quand on a parlé l'autre fois, de se mettre debout. Mais le moral, c'est ça. On doit être toujours souriant. On doit être toujours compréhensif. Et lorsqu'on arrive à bout, comme on dit là, c'est difficile.
Oui.
Tu sais, on a, je crois qu'on a zappé une période importante durant nos 5 années, celle-là, c'est la période de la pandémie, la période du confinement. La période de confinement, la nature nous a remis à la case départ. Tout est à l'arrêt. On est revenu vers le premier noyau de la vie, c'est le noyau familial. Il y a des parents qui ont découvert leurs enfants. Ah, on a des enfants. D'accord. Les enfants, ils ont découvert leur papa aussi. Ah, on est un papa. On aurait dû continuer à sur bâtir ce noyau. Là. Oui, sur ce noyau-là, pour l'enrichir. Faire beaucoup de noyaux qui graffitent autour.
Tu vois que tu es en train de répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure.
Oui, je reprends toujours à tes questions, mon cher. Je fais un détour, puis je reprends.
C'est ça. Ouais. Parce que comment peut-on ajuster oui. l'évolution de la famille à l'évolution de la communauté sociale? Tu viens de répondre, bon... Maintenant, nous, on est prêts à voter pour toi quand tu vas te présenter aux prochaines...
D'accord, ça marche.
Oui. Écoutons, est-ce que nous avons écouté Youssoufa aujourd'hui?
Non.
Ah, bon, écoutons donc Youssoufa.
Et voici le Seigneur Lay.
Romaye Music, Rumba Session. Ça, c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. One Love. Le lyriciste Pantou. Julien m'a dit ça, volume co.
Si tôt le matin, je me réveille.
Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mes traits sur ton portrait. Mon cœur qui fait boum, désormais je me sens prêt. Alors je te chante.
rentrer.
Pitié de mon amour.
Maman Bobby,
pitié de mon cœur. Je travaille nuit et jour.
Cool, c'est sûr, c'est bon, moi, je
suis. Pitié toi mon amour. Pitié toi mon cœur.
T'as déjà entendu de l'humour.
Je travaille nuit et jour pour ton
seul. Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler. Il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas infaillible. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip-hop m'a enquête, malgré les offenses. Je veux pas que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la roue tourne, si tu manques de repères. Tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Alors laisse-moi te dire tout ce que je t'aime. Même si ce n'est qu'un disque et que j'ai samplé ce thème. Une place dans ton cœur, j'aimerais y être d'emblée. J'aurais toujours peur si tu me laisses pas y entrer. Alors je te chante.
Pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Mesdames et messieurs, le Seigneur t'appelait Rochereau.
Si tôt le matin, je me réveille.
C'est ça même.
Devant ta photo, je me recueille.
Yeah.
Je sors sans déjeuner.
Chante papa, chante seulement.
Je pars pour travailler.
Celle-là, c'est pour Malik avec tout mon amour de la part de Dan.
Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime.
Dis-leur.
Le soir, je vais revenir.
C'est ça, mais
je fais ton avenir.
On vous l'avait dit, c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. Chante papa, chante seulement.
C'est mon papa. C'est le papa de tout.
J'ai fait ça en 1968.
Si.
Ça, c'était à 5h du matin.
C'était à 5h du matin. Moi qui n'arrive pas à pousser la nuit.
Pendant la répétition. Et dans un petit studio, un petit appareil.
Alors ici, on avait évidemment Youssoupha, qui échangeait avec son père. Il reprenait une vieille chanson de son père.
Oui.
Oh oui. Et c'est dans les responsabilités père-enfant où le père pense qu'il fait beaucoup de sacrifices. Bon. De mon point de vue, est-ce que les enfants devraient se rendre compte des sacrifices de leurs parents?
Non.
Bon.
Non. Écoute, je te disais tout à l'heure, lorsqu'on est adulte, on réalise. Mais ça sert à rien de, d'un papa ou d'un parent, des parents de faire comprendre aux enfants, non, c'est un sacrifice. Non, c'est pas un sacrifice. Le fait d'être un papa, c'est une vocation.
C'est ça.
Non, c'est pas, je parle pas des sacrifices, moi.
Nous sommes totalement d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est tellement une vocation plaisante.
Oui.
Que beaucoup de gens admirent ceux qui sont papas.
Oui. Écoute, il y a une chose aussi que le papa doit être fier de ses enfants, quelles que soient les conditions.
Mais est-ce que c'est même difficile d'être fier de ses enfants?
Avec ce temps-ci, oui. J'observe,
moi,
oui.
Moi, je crois que non. Même si l'enfant a de grandes limitations,
non.
Il y a des moments, il nous étonne de temps en temps.
Ce que je veux dire.
Oui.
Ce que je veux dire.
Oui.
C'est pas ce, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, ce que je veux dire, c'est que j'observe dans la société.
OK.
Qu'est-ce qui se passe dans la société.
OK.
On doit être fier de nos enfants, quelles que soient les conditions, c'est ça. Mais j'observe de la société qu'il y a des parents qui sont pas, essaient de cacher ça. Et cacher, si ces enfants font quelque chose, mais non. L'enfant, c'est un enfant. L'enfant fait des bêtises pour apprendre. L'enfant fait des niaiseries, comme on dit, pour apprendre. Il n'y a pas un enfant sage. Sinon, Dans la psychologie. Enfin,
en dehors de moi.
En dehors de moi, tu veux dire. Un enfant, c'est, et ça, je me souviens, mon père me disait, lorsque tu étais sage, je te viens te voir. Si j'ai de la fièvre, est-ce que je suis correct?
Oh, c'est ça.
Un enfant, c'est il ça. Doit jouer.
C'est, l'enfant c'est joue. Étonnant
oui.
qu'un enfant soit... Enfin,
l'enfant dépense en énergie. À toi apprendre. On ne doit pas limiter un enfant. Laissez l'enfant jouer.
Écoutons La Fouine, papa. Je ne sais pas si on l'a écouté aujourd'hui.
Non.
Laurie, on est en retard.
Vas-y, ouais,
c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah. Tu voulais que je coupe des planches comme toi. J'ai pas voulu, j'ai eu de la chance, mais t'inquiète, je touche du bois. Le frigo vide à ton départ, maman t'en voulait beaucoup. J'avais pas le droit, mais en cachette, moi je t'aimais beaucoup. J'ai mis dans ce rap ce que je n'ai pas su te dire. Tu restes mon père pour le meilleur et pour le pire. Je levais à 5h du mat pour qu'on puisse avoir des baskets à nos pattes. Mais malgré ça, j'ai quand même giflé le prof de maths. Yeah, au square, on m'appelle Fouini Baby. Mais pour toi, je reste Léonie, Walt Blady. Boum, boum, les keufs viennent me lever. T'es jamais venu au parloir car les hommes se cachent pour pleurer. Yeah, si t'as ouvert, c'est que le vice a sonné. Mais on reste tous les mêmes, papa, tu es pardonné. Ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. J'ai trempé ma plume dans mes larmes pour écrire ce couplet. Yeah. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va te s'envoie, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Je te regarde d'en haut, tu me regardes d'en bas. Tu fais vibrer mon cœur de ton regard rêveur. Je suis trop souvent absent, me le pardonneras-tu? J'essaie d'être un bon père, maman me regarde au-dessus. J'écris ce rap sincère de l'arrière du car. J'ai ta petite tête en fond d'écran, les doigts sur la guitare. J'arrive à la salle pour faire les balances, il est midi. Tu sors sûrement des cours avec ton sac et nos kitschi. On fait la fête ce soir, on affiche complet. Plus personne peut entrer, mon cœur affiche complet. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie. On m'a retiré tous mes points, je t'aime comme c'est plus permis. Et comme en un éclair, t'es rentré dans ma vie. J'ai dit non à la tôle, plus jamais les soucis. Ce qui est dit, ce qui est fait. Et quand je serai plus là, j'espère que tu diras. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va te s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi. Papa, le temps va tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi.
Yeah, dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taper du soir au matin. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Dédié aux frères qui ont eu un père comme le mien, qui se cassait le dos à taper du soir au matin. Yeah. Dédié aux sœurs qui ont eu un père comme moi, qui du matin au soir courait derrière la gloire. Yeah.
maman. Et fais l'amour que j'ai pour toi, papa.
Alors, j'ai beaucoup de questions pour toi, Ahmed, mais je vais commencer par une. Est-ce que la communication entre le père et ses enfants n'est pas toujours décalée? C'est-à-dire que les priorités du père...
C'est pas les priorités des enfants.
Exactement.
Tout à fait.
Et puis, ça se croise à un moment dans la vie. Et quand on arrive au niveau de compréhension du père, généralement, il n'est plus là.
On essaie, écoute. Oui. Comme papa, ou comme on était tous des enfants aussi.
Exactement.
On essaie...
Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, voir le chasser, croiser.
En fait, comme papa, parce qu'on est des adultes, on essaye de comprendre les enfants. On essaye de s'adapter aux jeunes, parce que c'est un conflit générationnel aussi.
Exactement.
On essaye d'être à la page. On ne peut pas vivre au 18e et parler à l'enfant du 21e.
C'est ça.
Ça ne fonctionne pas.
Compliqué.
Oui, on ne peut pas comprendre un enfant sur les réseaux sociaux... Tous les plateformes, réseaux sociaux, avec une mentalité qui ne conçoit pas un appareil photo argentique. On doit comprendre tout ça. On doit essayer de se mettre à la page. Si on ne comprend pas, on essaie. Et mon petit ou ma petite, peux-tu expliquer à ton vieux papa comment ça marche? Et là, l'enfant sera impliqué. Et là, il va essayer de se mettre au niveau de ses parents. De s'approcher, de rapprocher d'eux.
J'aime les mots que tu viens d'utiliser. Implication, rapprochement.
Oui. Et la vie de famille, c'est quoi? C'est un partage, n'est-ce pas? Un des faciès, c'est le partage. L'enfant fait partie de ce partage-là. On ne doit pas l'exclure. On doit l'impliquer dans les affaires courantes de la maison, de la famille, du char, du vélo, des animaux qui sont avec nous, même du meuble, même le fait de ranger sa chambre. C'est une affaire familiale. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde doit être impliqué. Comme ça, l'enfant, primo, et il est impliqué dans la famille. Il se sent membre à part entière. Il n'est pas exclu. Il est là...
Membre à part entière, pas membre à part.
Oui, je veux dire, pas membre à part, membre à part entière de la famille. Il est présent dans les discussions, à la limite, bien sûr. Dans les décisions, qui peut être là pour donner son avis? Il est là. Et petit à petit, c'est comme apprendre à nager. On entre à la mer, à la cheville, puis genou, puis bassin, puis le torse, puis en nage. C'est comme ça, l'enfant. C'est comme ça qu'il apprend l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la famille. Petit à petit, il prend ses repères, prend ses décisions. Il apprend à parler, à demander la parole, à donner des arguments et des contre-arguments pour faire plaider sa cause. C'est comme si dans un... Pas un tribunal, mais un plaidoyer.
Mais oui.
Un plaidoyer familial.
Mais oui.
On apprend les bases.
Mais même au tribunal, le tribunal n'est pas que répressif.
Tout à fait.
Le tribunal...
À la base, c'est comme ça.
Enfin, c'est comme ça que le justiciable moyen voit le tribunal. Mais non, le tribunal, c'est un endroit où on fait respecter la loi.
Oui.
C'est pas où on se fait taper sur les doigts.
Mais non, on fait respecter la loi, tout à fait. Je suis d'accord avec toi.
C'est ça. Donc, si tu dis que la famille est une plateforme où on peut argumenter, faire respecter son point de vue, entendre les points de vue des autres. Oui, c'est tout à fait correct, tout à fait normal.
L'enfant est l'éponge de ses parents. Le miroir, oui, mais l'éponge. Si il voit des conflits, il sera agressif après. S'il voit une mauvaise communication, il ne sait plus comment communiquer. S'il voit... Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Il aspire tout ce qui se passe devant lui. Et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les familles qui nous écoutent, donnent le bon exemple pour leurs enfants, pour avoir une bonne société après.
Oui. Enfin, il y a la volonté.
Ben oui.
Et il y a aussi ce qu'on fait, nos propres limites.
On a parlé de ça, les limites. On essaie de pousser nos limites. On essaie de faire ça. On a parlé du dilemme de la vie professionnelle, la vie familiale.
Exact.
On est tout le temps stressé, on est tout le temps court, tout le temps. Char, travail, et, retour, oui.
Et il y a même des différences de nature.
Oui.
Au-delà des différences de culture. Une femme n'a pas exactement le même point de vue qu'un homme, mettons, dans une voiture. Quand la femme a chaud, parfois l'homme n'a pas chaud pareil.
Tout le temps, moi et ma blonde, c'est comme ça.
Bon. Et pourtant, vous êtes de bons amis, vous êtes très proches. La preuve, vous êtes mariés. Et puis, bon, c'est ça, vous êtes une famille. Bon, parfois, le point de vue, un point de vue d'un homme,
diverge, oui,
n'est pas exactement celui d'une femme. Même la musique qu'on met pour voyager doit faire l'objet d'une certaine discussion, parfois animée, pour qu'on tombe d'accord sur les musiques à écouter, c'est ça, dans les circonstances et tout ça. Donc, c'est une conversation qu'il faut avoir. Moi, je retiens de notre émission d'aujourd'hui qu'il faut une conversation familiale maintenue à tout moment pour s'ajuster par rapport à l'évolution des uns et des autres.
Tout à fait. Je dirais une éternelle négociation.
Exactement.
Même pour la musique que tu as citée tout à l'heure, on négocie, et on va mettre ça, t'es d'accord, on est d'accord, on y va. Et c'est pas que on ne doit pas avoir de chicanes,
non.
Les chicanes sont là.
Oui.
Parce qu'on avance aussi à travers les chicanes. Tout à fait. C'est notre nature. C'est deux personnalités différentes qui doivent s'adapter avec les enfants. Ce sera trois ou quatre personnalités qui doivent s'adapter aussi. Et on avance. Au cours de la vie, c'est un grand fleuve aussi.
C'est là que nous finissons l'émission d'aujourd'hui. Bon samedi et à samedi prochain.
Samedi prochain.